Aujourd'hui, comment manager mon équipe comme un être vivant ? Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Avec Olivier Berru, je vous propose aujourd'hui de décaler et d'enrichir la vision de votre équipe, de votre entreprise et de votre management. Olivier nous offre une approche à la fois non rationnelle, mais tout à fait pragmatique du management, inspiré de la pensée chinoise dont il est spécialiste. Vous verrez que ce voyage que nous allons faire ensemble avec lui éclairera aussi d'une manière différente les outils que je vous propose au quotidien sur Outils du Manager. Au programme, les limites de l'entreprise vues comme une machine. Les trois lois de fonctionnement qui régissent tout système. Les rôles du manager, de l'actionnaire, du développeur, du comptable et du producteur. Les cinq périodes dans le cycle d'une entreprise. Et enfin, les trois questions que vous devez vous poser à propos de votre rôle de manager. Pour discuter tout ça, je vous donne rendez-vous sur le forum, sur forum.outildumanager.com, dans la catégorie nouveautés. Il suffit que vous recherchiez Olivier Berru. Mais en attendant, je laisse place à cette conversation extrêmement enrichissante que j'ai eue avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Cédric.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, comme quelqu'un qui est confiné depuis un mois et qui a une perspective de sortie dans un mois, donc voilà, je suis entre deux, dans un entre-temps.
Oui, mais dans un environnement qui est sympathique, je crois.
Ah, je vis au sommet du Mont des Cats, dans les Flandres, dans le Nord, et c'est un endroit qui est paradisiaque, oui, qui ressemble un peu à la comté des Hobbits, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà.
Eh bien, on entend les petits oiseaux autour de toi, donc c'est parfait. Alors, pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, peut-être ton parcours, bref, ta vie et ton œuvre jusqu'à maintenant.
Je vais essayer de faire bref. J'ai 51 ans, je suis responsable des créateurs d'une petite structure de conseil qui s'appelle « On peut parfaire le monde ». Qui a maintenant 10 ans. Et mon parcours, en gros, c'est d'être, je vais résumer à partir de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est d'être engagé dans des mondes assez différents qui, dans notre culture en France, se parlent pas souvent. Le monde, on va dire, bénévole des soins palliatifs de l'enfant, dans lequel je travaille depuis 30 ans. On va dire le monde associatif, un monde artistique dans lequel moi je suis pas mal engagé sur des questions de chansons, de musique, de théâtre. Et puis, je suis engagé dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Moi, je suis aujourd'hui professeur associé à l'IAE, à l'Université de Lille. Et puis, enfin, évidemment, le monde de l'entreprise, qui est le monde qui m'occupe le plus au niveau professionnel. Mais qui sont, du coup, voyez, tu vois, les quatre mondes en question, ce sont des mondes qui sont réputés assez différents. Alors qu'en réalité, ils ont au moins deux points communs, hein, qu'on soit dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la recherche ou dans le monde de l'art, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent pour rendre les projets possibles. Et puis on est devant des enjeux permanents de créativité et d'innovation. C'est des mondes qui sont posés sur le monde qui est le nôtre, et le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il est tellement en mutation qu'il exige en permanence de l'innovation et de la créativité. Et du coup, à travers ces deux sujets, comment je rends les choses possibles, et puis comment est-ce que je change, parce que tout change aujourd'hui. Finalement, c'est des mondes qui ont beaucoup plus de choses à se raconter que nous, on pourrait le penser. Voilà.
C'est parfois un petit peu dans notre culture, peut-être un peu française, d'exclure les choses, de plutôt voir les choses en termes de « ou » plutôt qu'en termes de « et ». C'est-à-dire, on peut être à la fois dans tel monde et dans tel monde et dans tel autre.
Oui, c'est ça. On a vraiment besoin de classer, de compartimenter. Et dans plein de cultures, ces barrières-là n'existent pas trop. Voilà. Alors moi, dans ces mondes-là, j'ai aucun génie. Je suis pas un grand chanteur, un grand entrepreneur, un grand chercheur. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de chance, moi, dans ma vie, tu vois, pour finir ma présentation, c'est que moi, j'ai rencontré des gens avec qui je continue à cheminer et qui sont des gens passionnants et qui sont, alors là, pour le coup, dans ces mondes-là, respectivement, des gens géniaux, quoi. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, moi, Anne Sylvestre dans la chanson, Mohamed Younous dans l'entreprise et Edgar Morin dans la recherche. Voilà, ça, c'est des gens avec qui, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que de travailler, quoi. Enfin, voilà, de cheminer. Et donc, je suis plutôt un passeur, moi, voilà.
D'accord, ok. Excuse-moi.
Je te coupe, mais pour terminer juste ma présentation, parce que ça va nous occuper. En fait, dans mon parcours, moi, j'ai été, avant de créer ma boîte, j'ai été dirigeant dont deux groupes du Nord, mais qui sont implantés à l'international, ID Group et les Trois Suisses. Et dans mon parcours aux Trois Suisses, qui a duré une quinzaine d'années, j'ai été le patron de Trois Suisses en Chine, à Shanghai. Et donc, voilà, j'ai découvert un modèle qui va nous occuper aujourd'hui. Ça, c'est pour te permettre de faire une transition.
Oh, wow, j'ai presque plus rien à dire. C'est formidable. On voit le métier. Ouais, le métier d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est voir l'entreprise comme un être vivant. Moi, j'ai vraiment eu envie de faire cette interview parce que t'étais intervenu dans mon entreprise il y a quelques années sur ce sujet-là. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. D'abord, à un titre tout à fait pratique pour mon entreprise, mais aussi, pour moi, c'était une autre façon de voir les choses et ça avait occasionné un changement de paradigme. Et donc, en général, quand tu nous parles de ça, voir l'entreprise comme un être vivant, tu démarres en nous disant qu'on a tendance à voir déjà, nous, l'entreprise comme une machine.
Bah oui, parce qu'en fait, on est, nous, et c'est alors vraiment notre force, hein, donc il faut surtout pas y renoncer de mon point de vue, mais nous, on est baigné dans la culture occidentale et donc dans une culture qui est hypothético-déductive ou cartésienne et donc qui pense vraiment de façon scientifique pour aller vite. Mmh. Et du coup, sans qu'on s'en rende compte forcément, la façon dont on imagine nos entreprises, quand on pense à nos organisations, à leur fonctionnement, bah, c'est une façon qui fait implicitement référence à la machine, c'est-à-dire à des objets qui sont assemblés ensemble, qui correspondent, mais qui ont une forme d'autonomie. Et donc, voilà, on fait des silos par métier, on fait des flux, on fait des process, on fait, voilà. Et encore une fois, tout ça n'est absolument pas dans mon idée à mettre à la poubelle, pas du tout. C'est juste que cette façon de regarder l'entreprise qui a beaucoup d'efficacité, qui conduit à une forme de rationalisation des process et des métiers, elle se heurte au fait que l'être humain ne tient pas dans cette métaphore unique de la machine et que la machine, évidemment, ce qu'elle ne prend pas en compte, c'est la dynamique et la dimension du vivant. Et ouais. Donc, voilà, ce pourquoi moi je plaide beaucoup aujourd'hui, c'est pour qu'on complète. Et aujourd'hui, ça prend une actualité énorme. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais dans un monde qui est en transformation, le propre du vivant, c'est de s'adapter. Le propre de la machine, c'est de faire toujours plus de la même chose. Encore une fois, je suis caricatural, hein, parce que aujourd'hui, notamment quand on part dans les machines intelligentes et avec l'intelligence artificielle, on commence à avoir des machines qui ont des caractéristiques du vivant, hein. Donc voilà. Donc moi, j'entends ça, la machine au sens mécanique du mot. Et donc, voilà. Mais oui, on a souvent une façon de regarder nos entreprises qui est, on va dire rationnelle et donc qui renvoie à l'idée que les choses sont posées. Comme on ouvrirait le capot d'une machine, quoi. Ça, encore une fois, ça a tout un domaine de pertinence et d'efficacité qu'il faut surtout pas oublier, mais ça peut être complété. C'est un peu l'idée pour moi de la métaphore, on parlait de l'interculturel, hein. Quand on part dans une autre culture, c'est un peu comme si on allait à la conquête d'un autre œil supplémentaire. Et donc, quand on a une culture et qu'on passe à deux, on commence à voir en relief. Quand on a trois cultures, on commence à voir dans une troisième façon. Et donc, l'interculturel nous permet de, non pas du tout de renoncer à ce qui a fait notre culture, mais à la compléter par d'autres choses. Voilà. Parce que le propre, finalement, d'une culture, c'est de regarder le même réel, mais de ne pas le comprendre de la même façon. Et ça ouvre des possibles. Et alors, quand on est manager et quand on est dirigeant, en gros, c'est une de nos missions récurrentes. C'est de trouver des possibles quand, en gros, nos collaborateurs viennent nous dire « ça marche pas, quoi ». Voilà.
Oui, dire clairement.
C'est un peu une façon de parler du métier de manager que voilà un collaborateur quand il dit il faut absolument que je te voie d'urgence, c'est pas pour nous donner une bonne nouvelle. Donc on est sans arrêt saisi des impossibles de notre organisation en fait. Et pour affronter ces impossibles, si on garde les mêmes lunettes et le même point de vue, en gros, on va finir par adopter le fait que c'est effectivement impossible. Mmh. Alors que à notre job. Et donc, en tout cas, moi, cette décentration par une autre façon de regarder les choses, je trouve que ça rend hyper créatif. Évidemment, des fois, ça marche pas, hein. Des fois, ça suffit pas. Des fois, voilà, c'est pas un outil magique, mais c'est un outil qui réouvre des perspectives et puis qui permet, on va l'illustrer ensemble, je pense, aujourd'hui, mais qui permet de se poser des questions qu'on se pose pas d'habitude, en fait. C'est ça l'intérêt aussi de la démarche.
Voilà. Tout à fait, ouais. Et dans la notion de machine, il y a peut-être aussi une notion de permanence, c'est-à-dire, une machine, elle est posée là, elle est là pour faire toujours la même chose, et donc elle est figée dans le temps, alors qu'on a besoin d'une approche évolutive dans l'entreprise, probablement.
C'est ça. Voilà. On a besoin des deux sans doute. Hein. On a besoin à un certain moment d'avoir bien fixé, d'avoir stabilisé, de rendre fiable et répétitif les choses. Voilà, la métaphore mécanique marche très très bien. Ouais. Et puis effectivement, des fois, on est confronté à du changement, de l'impossible, de l'imprévisible, de l'incertain. Et là, la machine est relativement peu pertinente.
Ok. Et donc, toi, tu as une autre approche. En tout cas, tu décales ta vision, tu gardes celle de l'entreprise, de la machine qui peut être utile. Et tu voudrais aussi qu'on voit l'entreprise comme un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en gros, voir l'entreprise comme un être humain?
Bah, déjà, c'est bien clair que ça veut dire qu'on passe non pas dans une pensée qui est scientifique, mais dans une pensée qui est analogique. Si je dis « regardons l'entreprise comme un être vivant », je dis on fait comme si l'entreprise était un être vivant. Ça veut dire qu'on s'autorise à mettre des choses en correspondance qui n'ont pas de correspondance intrinsèque mais scientifique, mais qui ont des correspondances analogiques. Donc ça veut dire déjà que je dis OK, posons notre pensée rationnelle et cartésienne, encore une fois sans la renier, mais en la laissant reposer, et ouvrons-nous à une pensée qui est plus une pensée artistique ou une pensée symbolique, qui consiste à dire, mais je peux observer, contempler une entreprise en me disant, au fond, quand on y réfléchit, une entreprise, elle est née, elle s'est développée, elle a grandi, elle a changé des fois de métier, de secteur, elle a eu des attaques de concurrents, elle a eu peut-être des fois l'occasion de racheter ou d'acquérir une autre entreprise. Enfin bref, la métaphore du vivant, et puis elle peut évidemment mourir, et puis elle va évidemment un jour mourir sans doute. Enfin voilà. Donc on peut tout à fait finalement parler de l'entreprise assez simplement, en se rendant compte que, bien sûr, elle a une dimension mécanique, mais elle a aussi une dimension, je dirais presque physiologique de développement. Voilà. Et alors ça, bon, qui est relativement simple à comprendre, comme on vient de le voir, je cherchais depuis très très longtemps à l'aborder, à travers ma recherche universitaire sur la complexité et le travail que j'avais fait avec Edgar Morin, mais j'y arrivais pas, parce que dans nos concepts justement de science de la complexité, on est assez vite compliqué pour des gens qui sont opérationnels et qui sont concrets dans l'entreprise, parce que on parle d'auto-éco-organisation, parce que on parle de rétroaction, d'effet feedback, enfin bref, on a beaucoup de choses on a beaucoup de difficultés, à appréhender la complexité dans un discours cartésien. Et alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que quand j'étais en Chine pour 3 Suisses, je me suis intéressé à la façon dont les Chinois formaient leurs managers, puisque j'allais diriger des gens qui étaient Chinois en Chine, quoi. Mais à ma plus grande surprise, c'est que mon premier cours de management à l'université de Shanghai, ça a été un cours de médecine traditionnelle chinoise. Et à un point tel que moi, je me suis dit, je me suis planté de cours, quoi, c'est pas possible. Voilà. Parce que moi, je débarquais à Shanghai, donc quand on arrive en Chine, on fait pas les malins. Mais ouais. Je me suis peut-être dit, même Olivier, ça se trouve, tu t'es planté d'université, quoi, parce qu'on est complètement paumé, on dit rien, on est vraiment perdu. Mais c'était bien le bon cours, la bonne fac, le bon thème. Et simplement, effectivement, y a deux endroits aujourd'hui en Chine où on enseigne ce modèle qui s'appelle aujourd'hui le modèle des cinq agirs ou des fois des cinq éléments, qui est avec le modèle du yin et du yang, les deux grands piliers de la sagesse orientale pour comprendre le monde. Alors évidemment, c'est complètement réducteur de dire ça, mais en gros, les deux endroits où on les enseigne, c'est la médecine traditionnelle chinoise et le management. Et donc la métaphore est très très claire. Un manager dans la sagesse traditionnelle chinoise, je ne vous parle pas aujourd'hui, ça c'est important de le dire, du fonctionnement de la Chine contemporaine. Chine contemporaine, elle est mondialisée, elle a absorbé un certain nombre de notre fonctionnement. Je parle pas du tout de la Chine actuelle, je parle de la sagesse traditionnelle chinoise. Et bien dans la sagesse traditionnelle chinoise, en fait, le manager, c'est le médecin de son équipe. Et la métaphore en fait qui va permettre de faire des correspondances, c'est de dire en gros le rôle du médecin avec son patient, le rôle du manager avec son équipe, le rôle de l'empereur avec son empire, c'est le même rôle, c'est-à-dire maintenir la bonne santé. La grande question en Chine, c'est de dire l'état normal d'un être vivant, c'est la bonne santé. Et du coup, il y a une conséquence très intéressante pour nous, c'est qu'en fait, on ne va pas voir son médecin en Chine quand on est malade. On va le voir 4 fois dans l'année lorsqu'on est en bonne santé. Et si on fait ce que notre médecin chinois nous raconte, eh bien, le jour où on tombe malade en dehors de ces rencontres, il doit nous soigner gratuitement jusqu'à ce qu'on ait recouvré la santé. Et donc voilà, c'est encore une fois, ça n'est absolument pas incompatible avec notre vision à nous, parce que je vais quand même voir le médecin si je suis malade, mais l'idée c'est que l'état normal du vivant, c'est la bonne santé. Et donc l'intérêt de mon médecin chinois, c'est que je sois en pleine forme, parce que normalement je vais le voir 4 fois dans l'année et là je le paye, et le reste du temps je ne le vois pas puisque je suis en bonne santé et qu'il a fait son boulot.
C'est intéressant aussi à regarder du côté manager, c'est-à-dire le rôle du manager, c'est de faire que son équipe soit en bonne santé, et c'est son rôle principal, et donc ça veut dire une interaction régulière et vérifier que tout va bien, et donc on n'est pas forcément dans un modèle où on impose, où on fait des injonctions, etc.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, en gros, chinois, donc le manager de son équipe, encore une fois, si l'équipe n'est pas en crise, donc justement, si elle n'est pas malade, sa grande question, c'est comment je fais pour conserver cet équilibre et cette bonne santé, sachant que, en toile de fond, ce sera la dernière chose un peu explicite dans la sagesse chinoise, mais en toile de fond de la pensée orientale, il y a l'impermanence. Autrement dit, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Et ça, d'abord, ça nous parle beaucoup en entreprise, hein, parce que c'est pas parce qu'on a réussi un truc qu'on va réussir le suivant. C'est pas parce que ça marche avec un client que ça marchera toujours avec un client, enfin, etc. Donc, l'impermanence est une évidence de notre expérience de manager et de dirigeant. Ça, c'est un premier point. Et donc, il faut bien y faire face. Mais en plus, il y a cette idée que si mon équipe va bien, je sais que c'est pas l'équilibre qu'elle a aujourd'hui qui va être l'équilibre pérenne pour la suite, parce que la seule chose qui change pas, c'est que tout change tout le temps. Et donc on est dans une attention permanente. Et finalement, quand on reprend la métaphore de la médecine chinoise, on se rend compte que peut-être dans notre culture à nous occidentale, on s'intéresse trop à nos équipes à partir de ce qui va pas, de ces dysfonctionnements. Parce qu'on regarde où elle est malade quand elle est malade, mais le reste du temps on considère que c'est normal, quoi. Elle a pas besoin de nous. Alors que dans la sagesse chinoise, on dit oula, doucement, si ton équipe va bien, prends-en soin encore plus. Enfin, donc intéresse-toi à ce qui va bien. Et donc là, on voit aussi que va s'ouvrir toute une réflexion, hein, par exemple dans le management et dans le manager, dans les outils du manager aujourd'hui, quand on regarde les entretiens annuels d'évaluation, souvent on passe beaucoup de temps sur les points faibles, sur ce qui va pas, sur comment on peut s'améliorer là où on n'est pas bon. La sagesse chinoise dit commence déjà par utiliser tous les endroits où tu es vraiment bon, quoi. Puis après on verra, pourquoi pas t'améliorer là où tu es pas bon. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu vas amener à ton équipe, c'est pas tes points faibles, c'est pas la rectification laborieuse de tes points faibles. Ce qui va être intéressant dans l'équipe, c'est là où tu es tellement bon que les autres vont dire purée, je suis pas de ce niveau-là, quoi. Donc heureusement que tu es là. Voilà.
C'est un peu aussi Ouais, c'est un peu aussi guidé par notre éducation et par le fait qu'un manager, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Tu le disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient te voir en disant « faut qu'on se voit, ah, je vais avoir un problème à résoudre », alors que c'est pas forcément ça, effectivement, et puis il y a aussi une question de fréquence, c'est-à-dire si on se pose la question de ce qui va pas dans notre équipe tous les ans, on est un peu avec une fréquence qui permet pas de faire des ajustements progressifs.
C'est exactement ça.
Ok, et donc c'est très très intéressant. Et alors tu parles des 5 éléments et des 5 agir en fait.
Le modèle que tout le monde connaît dans notre culture à nous, c'est le modèle du yin et du yang. Hein, donc ouais. C'est dans ce cercle avec du blanc, du noir, et puis ces ronds qui s'engendrent intérieurement. Alors déjà, yin et yang, quand nous on y réfléchit, on se dit souvent ça veut dire le bien, le mal, le vrai, le faux, le masculin, le féminin. Enfin, on part dans des grands trucs un peu mystico-gazeux. En Chine, yang, ça veut dire l'adresse, et yin, ça veut dire du bac. Autrement dit, le yin et le yang, c'est la description d'une montagne observée par un montagnard. Il y a un côté qui est plus éclairé qui s'appelle l'adré, c'est le yang. Il y a un côté qui est plus à l'ombre dans la journée qui s'appelle le yin et que nous, on appelle l'ubac. Et donc, la sagesse chinoise, ce que je veux dire en détaillant cet exemple, c'est que nous, on l'a vachement théorisé alors qu'au départ, c'est juste un regard amoureux de paysan sur le réel. Quoi. Voilà. 97% de la population chinoise pendant des siècles, et vraiment des siècles, hein, ce sont des paysans en très grande majorité. Et le grand problème de l'empereur d'ailleurs, c'est que s'il est sur un empire et qu'il ne veut pas qu'on lui coupe la tête, c'est-à-dire s'il veut rester reconnu comme empereur, il faut que sa population gigantesque mange au moins 2 fois par jour. Et donc, le grand problème de l'empereur, c'est que tout le monde bouffe deux fois par jour, quoi. Pour, encore une fois, être un peu caricatural. Mais ce que je veux dire par là, c'est en revenir à l'idée que il y a une sagesse qui est très pragmatique, qui est très branchée sur le réel, parce qu'elle vient de ce regard amoureux du vivant. Et donc, nous, on connaît le yin et le yang. On n'a, en général, pas intégré qu'entre le yin et le yang, il y a du vide, hein, le vide médian. Et voilà. Mais ce modèle, il sous-tend tout le réel, voilà. C'est-à-dire que dans toute situation, il y a du yin, il y a du yang, et le yin, c'est ce qui veut devenir yang, le yang, c'est ce qui veut devenir yin, hein. On est dans cette impermanence, pour faire un clin d'œil à un sinologue qui s'appelle Éric Julien. Et voilà. Et donc, le deuxième modèle, en fait, qui est au cœur de la sagesse chinoise, c'est un modèle, encore une fois, qui vient de la médecine traditionnelle chinoise, mais dont l'empereur se sert également pour gouverner l'empire. C'est donc le modèle qui s'appelle les cinq agirs. Et c'est un modèle qui, finalement, dit que pour être vivant, il y a trois lois à respecter. Une loi d'existence, une loi de co-engendrement et une loi de co-contrôle. Alors, une loi d'existence, pour être vivant, il faut avoir en soi cinq dynamiques, cinq énergies, cinq façons d'être au monde, cinq éléments que moi je préfère appeler, avec Cyril Javary, un autre sinologue, des agirs, c'est-à-dire des façons de s'engager dans le réel. Hein, voilà. Mm-hmm. Et cinq agirs, ce sont des agirs qui vont être, dans le cas du médecin chinois, en correspondance avec des organes vitaux. Hein, on ne peut pas vivre sans nos organes vitaux. Donc ça, c'est la loi d'existence. Pour être vivant, il faut avoir un cœur, des poumons, des reins, enfin, etc. Et si j'ai pas de cœur, ça va mal se passer, quoi. Voilà. Le seul problème, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir ces organes vitaux classés dans les cinq agirs ne suffira pas à être vivant. Il faudra en plus les deux autres lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais donc le médecin va utiliser ça avec les organes vitaux. L'empereur va utiliser ça avec les fonctions régaliennes de l'empire. On verra ça ensemble. Et ben entre les deux, le manager, il va falloir qu'il les utilise avec les fonctions régaliennes de l'entreprise. En gros, c'est ça l'idée. C'est de bien. Vous voyez, on retombe sur la pensée analogique. C'est de dire, ben dans le corps humain, ce que les Chinois vont appeler le feu, ce sera la fonction cœur. Dans l'empire, ce que les Chinois vont appeler la fonction feu, ce sera le rôle de l'empereur. Et dans l'entreprise, bah, ce qu'on va appeler la fonction feu de l'entreprise, ce sera le rôle du manager. D'accord. Mais c'est une analogie. Voilà, c'est une analogie. Et donc, encore une fois, ça n'a pas de portée de démonstration, ça a une portée d'inspiration ou d'intuition, mais pas une pensée de démonstration. Voilà.
D'accord.
Donc, ces cinq agir, là, si je les détaille un tout petit peu maintenant, la loi d'existence, elle dit qu'il y en a cinq, et les Chinois les ont nommés avec des objets qui viennent du vivant et de la nature. Ils les ont appelés le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, à travers ces fonctions-là, ces cinq grandes fonctions, on va pouvoir décrire tout ce qui est fondamental au vivant. Alors, typiquement, nous, les Occidentaux, hein, quand on dit, bah, tiens, pour être vivant, il y a cinq agirs qu'il faut avoir, la première question, c'est pourquoi pas six, quoi, enfin, ou pourquoi pas quatre? Alors là, quand on pose cette question à un Chinois, il est un peu catastrophé parce qu'il dit, mais en fait, Olivier, pourquoi pas quatre? Ben, parce que si t'en mets quatre, ça marche pas. Et puis pourquoi pas 6? Parce que si t'as trouvé un truc qui marche à 5, on va pas s'emmerder en chercher un sixième, quoi. Et tu vois, un côté très pragmatique de cette pensée. En fait, à 4 ça marche pas, à 5 ça marche. Donc dès qu'on a trouvé un truc qui marche, ben on l'utilise, mais on n'a pas besoin de compliquer, de voir si par hasard il y en a pas un avec un 7. Enfin, vous voyez, voilà, on n'est pas du tout là-dessus. On est beaucoup plus pragmatique. Alors c'est quoi ces 5 agir? Ben c'est en fait 5 fonctions primordiales du vivant. Alors comme on a dit qu'on prenait un peu la métaphore de l'être humain. On peut raconter la vie de quelqu'un avec ça, c'est assez simple. Tout commence dans le temps de l'enfance. Et pour les Chinois, le temps de l'enfance, ils l'appellent le bois. Parce que le bois, c'est le seul être vivant qui grandit toute sa vie et qui grandit toute l'année. Il grandit toute sa vie, un arbre meurt en croissance et il grandit toute l'année parce que l'hiver, il fait des racines et l'été, il fait des branches. Et donc, l'être vivant qui incarne par excellence l'idée de grandir, c'est l'arbre, c'est le bois. Et donc, évidemment, c'est la métaphore du temps de l'enfance. Et le bois, ben, c'est quoi, en gros, hein, sa pulsion primordiale? C'est la conquête, c'est-à-dire c'est aller là où il n'est pas. L'arbre, il étend son réseau de racines et il étend son espace dans l'air en grandissant en permanence. Donc, la première pulsion du vivant, au fond, dans la sagesse, alors la première, parce que je commence par le bois, hein, mais la première pulsion du vivant, au fond, c'est de conquérir, c'est d'aller là où il n'est pas. Et donc, c'est la dimension du guerrier, finalement, hein, de celui qui va aller chercher quelque chose qui n'est pas dans son propre territoire au début. Et donc, la fonction bois, quand on va l'appliquer à l'être humain, on tombera sur la fonction du foie. Derrière le foie, il y a l'enjeu de la colère, d'aller là où on n'est pas, hein, de conquérir, de passer en force. Et puis, dans l'Empire, ce sera évidemment le général, le guerrier, la fonction de police, enfin, voilà, tout ce qui va permettre un usage d'une force qui, à certains moments, est nécessaire. Ensuite, la deuxième pulsion du vivant, c'est pas seulement d'aller là où on n'est pas, c'est d'arriver à des sommets. La deuxième pulsion du vivant, elle vient, elle s'appelle le feu, et elle vient en contemplant la marche du soleil, au fond, hein, le soleil, il fait 23h58 d'effort tous les jours pour faire le malin 2 minutes 30 à son zénith à midi, quoi. Et donc, voilà, il y a cette espèce de pulsion du vivant qui est de dire, bien sûr que je dois conquérir, ça c'est le problème du bois, mais il y a des moments, il faut que je réussisse, quoi. Voilà. Et la question de réussir, elle est liée à la joie, hein, après la colère, c'est la joie. C'est la fonction feu. Dans l'être humain, le feu, c'est le cœur. Et dans l'Empire, le feu, c'est l'empereur. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a une très belle définition du coup du management qui va venir, hein, parce que je rappelle que le cœur et l'empereur, c'est le manager dans la sagesse chinoise. Et ben finalement, l'empereur, c'est le gardien de la joie de ses collaborateurs et de ses clients. Voilà, c'est de se dire au fond, c'est quelqu'un qui a en charge ça. Et encore une fois, avec la mode pragmatique chinoise, hein, c'est-à-dire que si les gens ils bouffent pas deux fois par jour, on va pas leur parler de joie, quoi. On va ouais. Parler de manger. Mais une fois que les gens mangent, oui, l'empereur c'est celui qui doit les rendre heureux. Alors pas malgré eux, hein, on en parlera, mais voilà. Donc ça c'est le deuxième rôle, hein, c'est la fonction du cœur.
Alors juste, je t'interromps deux minutes. Le bois dans l'entreprise, ce serait quoi? Ce serait le développement commercial? Ce serait.
C'est exactement ça. C'est en fait dès qu'il y a un mot nouveau. Qui apparaît dans notre dialogue, c'est forcément du bois pour l'entreprise. Parce que d'accord. Justement, l'entreprise qui est une machine, elle reproduit les choses qu'elle sait faire. Mais dès que je veux faire, par exemple, dès que je veux lancer un nouveau produit, un nouveau service, dès que j'accueille un nouveau collaborateur, dès que j'achète un concurrent, dès que je commence une guerre des prix, dès que je fais bouger l'équilibre précédent en intégrant des choses qui n'existaient pas, je fais du bois pour la sagesse chinoise.
D'accord.
Et d'ailleurs, on parlera de saison bois. Voilà. Ouais. Hein, par exemple, je suis sur un marché que je domine, il y a un concurrent qui apparaît, et ben les Chinois disent « pense la guerre », la métaphore c'est la guerre, avec l'idée en Chine que l'art de la guerre, c'est aussi des fois de gagner sans combattre, hein, mais prépare-toi à combattre en fait. Voilà. Donc là, ça s'appellera faire du bois.
D'accord.
En chinois. Ce que j'ai pas dit, c'est que la saison du feu, hein, c'est dans la croissance d'un être humain, c'est le jeune adulte. C'est celui d'accord. qui rêve sa vie, qui a des projets, qui a envie de changer le monde, qui regarde tout ce qu'il y a à faire. Enfin, voilà. Ça, c'est le temps du feu. Puis après, il faut remonter ses manches et puis il faut mettre son idéal que le feu porte en œuvre. Il faut l'incarner, il faut le rendre très concret. Ben, ce travail un peu d'incarnation, de rendre concret les choses, qui souvent rend humble. Et en latin, hein, l'humilité, ça va renvoyer à l'humus. Et l'humus, c'est la terre. C'est le troisième élément de la Chine. C'est qu'une fois qu'on a grandi, ça, c'était le bois. Une fois qu'on a rêvé sa vie, ça, c'était le feu. Ben, il faut la mettre en œuvre. Ça, c'est la terre. Et le temps de la terre, c'est vraiment un temps de descendre dans le réel, dans le concret. C'est le personnage de l'Empire, c'est le paysan. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, dans un empire, il y a besoin de guerriers, il y a besoin d'empereurs, mais il y a quand même besoin de gens qui font bouffer les autres. Quoi. Et ça, c'est le paysan. Le diplomate aussi. Enfin voilà, la terre, elle est médiatrice. Hein. La terre, c'est ce qui rend tout semblable à elle-même. Si on enterre dans la terre un minéral, un végétal, un animal, eh ben, au bout de 500 ans, il reste de la terre, en gros. Donc la terre, elle a cette capacité un peu médiatrice dans la durée longue de tout rendre semblable à elle-même. Donc elle est vraiment médiatrice. Voilà. Et donc la terre, c'est la digestion dans l'être humain. Et encore une fois, c'est une grande partie de notre vie, hein, qui est en terre, c'est-à-dire, c'est, je sais pas moi, c'est de 25 à 45 ou 50 ans. Enfin, c'est le temps où on s'incarne, où on fait des choix, où voilà. Et puis, donc la fonction terre qui est la digestion, qui est l'empereur. Alors, tu vois, quand je dis la terre, c'est la digestion, c'est le paysan, c'est le diplomate, c'est l'inquiétude. Hein, le paysan, quand il plante, il se demande si ça va marcher. Donc, il y a l'émotion, c'est l'inquiétude, c'est le milieu de la vie. Enfin, Tout ça, ça met des choses en correspondance qui n'ont évidemment aucune correspondance intrinsèque scientifiquement parlant. Hein. C'est vraiment, on est vraiment bien dans sûr. La portée analogique. Voilà. Et donc, bah voilà, dans la vie de quelqu'un, tu vas comme ça dans ta vie, tu t'incarnes jusqu'à, je crois, 45-50 ans. Et puis à 45-50 ans, il y a un truc qui se passe qui te fait pas du tout marrer. Alors qu'à 20 ans, t'en avais rien à battre, c'est que tu sais que tu vas mourir, quoi. Il y a vraiment Alors, des fois, on l'appelle la crise de la cinquantaine, peu importe. Mais il y a un moment où tu te dis, oula, ça, dans ma vie, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et où tu vas réarbitrer ta vie. Alors, pour moi, le réarbitrage, je veux pas dire que tu pètes tout, que t'es obligé de quitter ta femme, que tu oublies, que t'abandonnes tes gamins. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Mais simplement, tu refais solennellement tes choix vers 50 ans. Parce que tu sais que ce que tu feras pas, tu le feras jamais. Donc tu renonces dans une forme de paix intérieure à des choses que tu ne feras pas, alors que quand tu as 20 ans, tout est possible. Donc tu peux faire du parachute, de la moto, du foot, le tour du monde en bateau. Enfin voilà. Puis à 50 ans, si t'as pas fait ça, il va falloir que tu te dépêches de le faire parce que tu le feras pas sinon. Et ce côté un peu solennel de regarder tous les possibles en renonçant à une partie, c'est l'énergie suivante que les Chinois appellent le métal, qui est l'énergie du juge. Et le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde une situation et dit ça c'est acceptable, je garde, ça c'est pas acceptable, je l'enlève. Hein, le juge, c'est celui qui a la possibilité de couper les têtes, c'est pour ça que c'est du métal, quoi, c'est ce qui enlève. Et donc dans cette quatrième dynamique du vivant, il y a l'idée de renoncer,
de faire un choix en fait,
essentialiser exactement. Voilà. Donc en gros, hein, le bois je conquiers, le feu j'organise, mais c'est théorique. La terre je réalise et le métal j'essentialise.
D'accord.
J'enlève ce qui marche pas, je garde ce qui marche. Et le métal, alors là, bon, peu importe, hein, parce que c'est dans la métaphore, mais dans le corps humain, c'est les poumons, c'est la fonction des poumons et de la respiration. Et puis dans l'Empire, donc c'est le juge. Évidemment, alors on l'a pas dit, hein, mais la terre dans l'entreprise, eh ben c'est les hommes et les clients, hein, c'est le centre de l'entreprise, c'est vraiment le cœur du cœur, c'est ce qui fait vivre l'entreprise au quotidien, c'est le paysan qui donne à bouffer aux gens, quoi.
L'opérationnel, voilà, en fait.
Exactement, c'est le concret, là où les choses se font vraiment, là où ça se réalise.
Et peut-être le quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est processus récurrent de l'entreprise.
Absolument, tout ce que l'entreprise maîtrise, qu'elle reproduit et qu'elle sait faire, c'est de la terre.
D'accord.
Et le juge, évidemment, en entreprise, ben, c'est tout le rapport de l'entreprise à son réel, objectivement qualifié. Donc, c'est le contrôle de gestion, la finance, le juridique. C'est encore une fois, ce qui est normé et qui, du coup, peut être avec un « ok, ça marche » ou « ok, ça marche pas ». Voilà.
Ouais.
Donc, ça, c'est la fonction juge. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un être humain, hein ? Donc, il a été enfant, il a été jeune adulte avec des idéaux, il s'est incarné, il a rechoisi sa vie à 50 ans. Et ben, quand il a vécu cette crise et qu'il a priorisé sa vie, il se retrouve à vivre à peu près la vie qu'il a envie de mener. Et il y a un philosophe français qui s'appelle André Comte-Sponville qui a une très belle expression là, qui dit « il faut passer de la dette au don ». Et ben, c'est ce qui se passe après la crise de la cinquantaine, c'est-à-dire que quand j'ai fini ma crise, en gros, j'ai plus envie de piquer la femme de mon meilleur ami, j'ai plus envie d'être chef à la place de mon chef, je suis en paix avec ma vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire que la vie que je mène, c'est la vie que j'ai envie de mener. Et donc, je quitte quelque part quelque chose qui est très intéressant parce que des fois dans l'entreprise, c'est vraiment un sujet majeur, ça. C'est les conflits de pouvoir, les intrigues pour être chef, enfin voilà. Il y a un moment où je m'en fous de tout ça et je passe à autre chose, quoi. Voilà. Je passe à autre chose parce que j'ai notamment très bien compris que comme je vais mourir, il faut qu'on se calme un peu sur les enjeux de la possession, du pouvoir, voilà. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, hein. Il y a des gens qui, évidemment, dans cette dette et qui ne passent jamais au don. Mais si on le fait, alors on devient très très intéressant en entreprise. Et c'est marrant parce que des fois les entreprises ont un peu de mal avec les anciens. Alors que c'est des gens qui n'ont plus d'enjeux personnels, donc ils n'ont que à transmettre.
Oui, c'est ça, c'est la transmission. C'est aussi le plaisir que tu ressens à faire croître les autres, quoi.
C'est exactement ça. Et bien ça, c'est la dernière fonction du vivant. C'est-à-dire que pour être vivant, il faut aussi avoir ce que les Chinois vont appeler de l'eau. La fonction eau, c'est exactement le mot que tu as employé, hein, Cédric, c'est « je transmets ». C'est-à-dire que donc je conquiers, j'organise, je réalise, je priorise, mais je transmets. Et donc la question de l'eau, l'eau, hein, c'est un truc qui est plus compliqué à percevoir en entreprise parce que l'eau, quand on y réfléchit par analogie, hein, c'est quoi l'eau ? Ben, c'est invisible, c'est incolore, c'est inodore, ça n'a pas de goût, ça prend la forme du pot dans laquelle on la met. Donc pour un peu, on pourrait dire mais l'eau n'a absolument aucun intérêt, ouais, sauf que l'eau, c'est absolument vital. Et donc, l'eau, en fait, ça va être les richesses pour les Chinois. C'est-à-dire que les richesses, elles se transmettent. Et voilà. Et donc, dans l'entreprise, c'est quoi l'eau ? Ben, si c'est les richesses, c'est le capital matériel, c'est-à-dire les actionnaires, mais c'est aussi le capital immatériel. C'est les savoir-faire, c'est les brevets, c'est les marques, d'accord, c'est la culture de l'entreprise. C'est tout ce qui est informel, mais qui est fondamental. Voilà. Et donc,
c'est un peu ça, le goodwill.
Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu vois, quand on a fini le cycle, qu'on est rentré dans l'âge de la sagesse, on est ce que les Chinois appellent un vieillard. Mais un vieillard, c'est en Chine, c'est hyper important, quoi. C'est hyper honorable, c'est hyper respectable. C'est d'ailleurs, on parle de culte des ancêtres, hein, tu vois. Donc, c'est pour dire que plus je suis vieux en Chine, plus je suis intéressant, plus je suis respecté. C'est d'ailleurs une erreur très, très banale, hein, qu'on fait, nous, les Occidentaux. C'est que des fois, quand on veut s'implanter en Chine, on envoie un petit jeune en volontaire, en service volontaire, là. Mais pour les Chinois, mais c'est presque insultant, quoi. Parce que si c'était sérieux, on enverrait un vieux, quoi. On n'envoie pas un jeune pour faire des choses sérieuses. Voilà. Mais bref, peu importe. Mais il y a toujours cette inversion de. Encore une fois, on regarde le même réel, mais on ne le comprend pas pareil, quoi. Voilà. Ça, c'est bon, c'est ce qui est réjouissant, hein, dans l'interculturel, évidemment. Alors, tu vois, si je reprends un peu les cinq fonctions régaliennes qu'on a posées, parce que la loi d'existence, évidemment, c'est la plus complexe à comprendre. La loi d'existence, elle dit, ben, pour être vivant, il faut avoir en soi une fonction foie. Je dis une fonction, c'est pas que l'organe, hein. Tu vois, le foie, il y a la vésicule biliaire, enfin, il y a plein de choses. Mais ben, il faut une fonction foie, une fonction cœur, une fonction de digestion, une fonction pulmonaire et une fonction, l'eau, c'est la vessie et les reins. Et l'enseignant, le sage, dans l'Empire. Évidemment, en entreprise, on l'a dit, c'est l'actionnaire et le capital immatériel. Et quand on réfléchit à ces cinq fonctions, on voit qu'il y a quand même un organe vital qu'on n'a pas adressé. Alors, dans l'eau, il y a la vessie, les reins et les fonctions génitrices, hein, la reproduction. Parce que finalement, l'eau, c'est quoi ? La vessie et les reins, hein, les animaux, ils marquent leur territoire. Donc, c'est une façon de montrer ce que je possède. Et c'est ce que je possède que je transmets à nouveau. Tu vois, enfin, toutes les choses se tiennent assez simplement là. Voilà. D'accord. Et donc, cette fonction eau, elle complète, mais quand on y réfléchit, dans les organes vitaux dont j'ai parlé, il manque le cerveau, en fait. Oui. Hein, j'ai pas parlé du cerveau. Et le cerveau, il apparaît en réalité dans les deux autres lois dont je te parlais, parce que je disais, hein, le modèle de la sagesse chinoise, il dit, bah, pour être vivant, il faut avoir en soi cinq agir. On vient d'en parler, mais il faut aussi que ces agir travaillent ensemble correctement. Parce qu'encore une fois, évidemment, si j'ai pas un bon cœur, je peux pas être en bonne santé. Mais c'est pas parce que j'ai un bon cœur, des bons poumons, un bon foie, enfin, etc. C'est pas parce que j'ai mes organes vitaux qui vont bien que tout ce petit monde coopère correctement.
D'accord.
Et le secret du vivant, c'est un, cette loi d'existence, mais deux, une loi de coopération qui se décline avec l'idée que pour coopérer, il faut créer de la valeur ensemble, mais il faut aussi se contrôler mutuellement. Voilà, là, on va retrouver un peu l'idée du yin et du yang, hein, parce que bah, s'il y a de l'engendrement, il y a de la destruction. Hein, s'il y a un mouvement qui monte, il y a un mouvement qui descend. Enfin, voilà, on est toujours dans cette compréhension. Encore une fois, qui est plutôt ternaire que dual, mais peu importe, du réel, cette fois-ci, et pas seulement du vivant. Alors, c'est quoi ces lois d'engendrement pour aller très très vite ? Ce que je te propose, c'est de t'en parler en prenant l'entreprise comme modèle.
Oui, tout à fait.
Tu vas voir, ça va bien marcher. En fait, donc, il faut imaginer ces cinq agir dans une espèce de cercle. Hein, on a posé le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Eh bien, si c'est un paysan qui regarde ça, il va dire l'eau, son premier travail, c'est qu'elle se donne au bois pour que le bois grandisse. Tu vois, la réflexion de base d'un paysan, d'ailleurs, on a bien vite, quand on est cultivateur aujourd'hui, des problèmes de sécheresse. Quand il n'y a pas d'eau, ça pousse pas, quoi. Donc, et quand l'eau arrive sur ce qui pousse boit l'eau et se l'approprie. Donc, l'eau, elle va disparaître pour donner naissance au bois. L'eau est mère du bois. Eh bien, dit par le monde de l'entreprise, c'est le rôle de l'actionnaire, l'eau, c'est de financer les développements d'une entreprise.
D'accord.
Tu te rappelles, hein, le bois, c'est la guerre, c'est
aller à tout à fait.
C'est faire ce qu'on n'a jamais fait. Ben, l'eau, elle doit financer
le développement.
Quoi. Et le développement. Et évidemment, l'actionnaire le sait très bien, quand on se développe, on peut mourir, quoi. Hein, parce que le bois, c'est la guerre, et la guerre peut faire tomber l'empire, quoi. Voilà. Parce qu'on voit bien, les généraux, c'est des personnalités bois, c'est des guerriers, et eux, ils s'arrêtent jamais, quoi. Tu te rappelles, l'arbre, c'est le seul vivant qui grandit tout le temps et qui grandit toute sa vie. Et donc, le problème de l'eau, c'est qu'elle doit financer des développements, mais qu'il faut qu'elle sache aussi à quel moment il faut pas y aller, quoi. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la tradition chinoise, le général ne part pas en guerre sans l'accord du sage. En fait, le sage, il lui amène les moyens, il lui amène l'expérience, il lui dit, ça c'est intéressant, il faut le faire, ça, c'est pas notre problème. Et donc, une fois que finalement, le bois a les moyens de son développement, finalement, ça c'est le problème de l'eau qui s'est donné à lui, encore faut-il, étape suivante, que le bois serve le projet du collectif. Parce que, je le disais, le bois c'est un guerrier, donc le développement, il va faire des choses nouvelles. Est-ce qu'elles sont utiles à l'Empire ? Eh ben, c'est pas une obligation dans la tête du général. Il y a des généraux qui sont un peu fous, quoi, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Donc, on fait un produit nouveau, mais il n'est pas utile à la stratégie de la boîte. On va acheter un concurrent, mais c'est pas le bon qu'il fallait acheter. Enfin, tu vois, on peut faire des erreurs dans les guerres qu'on mène. Et donc, le bois, il doit se mettre au service du feu. Alors là, à nouveau, dans le feu, c'est quoi? Ben, c'est le dirigeant, c'est le projet du collectif, c'est notre rêve commun, c'est notre vision. Et finalement, le bois, il doit servir le projet du collectif, et pas se servir en faisant la guerre qu'il aime bien au détriment du collectif.
Mmh. Oui, donc il y a vraiment une séparation là, entre le feu et le bois.
C'est-à-dire, absolument. D'ailleurs, quand Bonaparte devient Napoléon, du point de vue chinois, c'est louche, quoi. Tu vois, quand on confond le rôle du général et le rôle de l'Empire, il y a un truc bizarre. Mmh. Alors ça, on en parlera parce que ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas être en même temps DG et en charge du développement. Il faut simplement que je change de casquette. Tu vois, l'idée, c'est on peut cumuler les fonctions, mais par contre, on ne peut pas les cumuler en permanence. Il faut séquencer les choses. Parce que le général, c'est un guerrier, le dirigeant, c'est un visionnaire qui donne envie d'y aller, quoi. Et donc, ce n'est pas pareil. En général, les hommes, ils n'ont pas envie d'aller à la guerre, parce qu'ils vont mourir. Donc, vous voyez, la guerre, elle ne donne pas forcément envie aux gens d'y aller. Par contre, il faut savoir y aller à certains moments. Et donc, voilà, encore une fois, les fonctions sont un peu différentes. Mais donc, on voit bien dans la nature, de la même façon que l'eau a disparu pour que le bois grandisse, eh ben, le bois, il va disparaître pour que le feu brûle. C'est aussi simple que ça. Donc, le bois, il doit servir le feu, il doit l'engendrer, il doit lui permettre d'exister. Le général doit ramener des conquêtes utiles à l'Empire. Encore faut-il que l'empereur dise au général quelles sont les conquêtes utiles en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que doit faire l'empereur? Il doit donner à bouffer à ses hommes. Donc, dans l'entreprise, c'est quoi la terre? C'est les hommes et les clients. Il faut emmener les hommes et les clients dans une aventure exaltante. Donc là, on va retrouver vraiment l'idée de quelque chose qui, moi, me paraît très important aujourd'hui en entreprise. C'est la question qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est si tu veux que tes clients soient heureux, commence par rendre tes collaborateurs heureux, quoi. Voilà. Et alors, commence par rendre tes collaborateurs heureux, commence par créer les conditions dans lesquelles tes collaborateurs ont une chance de se rendre heureux eux-mêmes. Parce que ça, moi, c'est une rectification que j'aime bien faire quand on parle du lien entre le feu et la terre. En gros, c'est quoi le lien dans la nature? C'est que quand le feu arrête de brûler, il y a des cendres et que les cendres, elles fécondent la terre. Donc, encore une fois, le rôle de l'empereur, c'est de rendre les paysans heureux. Le rôle du manager, c'est de rendre les collaborateurs et les clients heureux. Mais pour moi, déjà, je préfère parler de joie dans le travail ou de joie par le travail que de bonheur au travail. Parce que tu vois, quand on dit bonheur au travail, je trouve qu'on plaque sur l'institution une attente qui est un peu exorbitante, alors que le bonheur, c'est un truc qui est compliqué, qui est intime, qui dépend des gens, puis surtout, la seule chose qui change pas, c'est que tout change tout le temps. Voilà, la joie, c'est plus simple, parce que la joie, c'est un élément à un moment donné. On pourrait parler de plaisir aussi, si on veut, mais c'est... Voilà. Et c'est-à-dire que pour moi, la question qui doit être posée en tant que manager, c'est est-ce que je crée bien les conditions dans lesquelles mes collaborateurs, dans leur travail, pas parce qu'ils ont une salle de billard ou de baby-foot, dans leur travail, vont être heureux.
Absolument. Et ça, ça... On est vraiment en phase, c'est l'expérience optimale plus que la recherche du bonheur absolu, c'est-à-dire est-ce que toutes les conditions sont là pour que je puisse m'épanouir à ma manière ?
Exactement. Et du coup, ça pose cette question qui est très très belle et qui revient, à mon avis, aujourd'hui dans notre monde, encore une fois, chinoiserie ou pas, c'est la question de l'utilisation des talents, tu vois, sur lequel on revient. Parce que, en fait, ça veut dire quoi? Être heureux dans son travail, être heureux par le travail que je réalise, c'est qu'implicitement, j'utilise mes talents. Parce que quand je suis sur mes compétences ou sur mes points faibles, je peux te dire que ça me rend pas heureux, quoi. Voilà. Ça me fait faire des efforts si je suis sur mes compétences, et puis ça me fait faire des efforts exorbitants si je suis sur mes points faibles. Mais si je suis sur mon talent, eh ben ça vibre tout seul. Et du coup, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais ça veut dire que là, je suis d'une certaine façon dans une forme d'excellence. Et l'excellence, on retrouve, tu vois, l'idée de la culmination de mon soleil, tu te rappelles, hein, qui fait 23h58 d'effort, et qui culmine. Et donc, la grande question que doit se poser l'empereur vis-à-vis du paysan, donc le manager vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients, c'est: est-ce que j'utilise bien le talent de mes collaborateurs, et est-ce que mes collaborateurs, en utilisant leur talent, dépassent bien les attentes de nos clients? Tu vois, voilà, c'est cette pensée-là qui est intéressante. Alors, ensuite, la Terre, elle produit, et puis il faut évidemment vérifier, parce que la Terre, elle a une forme de sincérité, mais aussi de naïveté, elle ne discerne pas, et donc la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle digère, hein, on avait dit ça, et la digestion, tu vois, dans le réel, c'est quoi? C'est le fait que quand tu mets en terre un animal, un végétal, un minéral, que tu attends suffisamment longtemps, tout est devenu terre, quoi. Et ben, tout devient terre, sauf le métal, parce que la Terre, elle donne naissance au métal sous forme de mine. Et donc, justement, c'est ce qu'elle digère pas. Et donc, tu vois, quand le collaborateur et le client ont fait leur travail, il faut mesurer la performance de ce travail. Ça, c'est le travail du contrôle de gestion, de la qualité, de tout ce qu'on a appelé le métal tout à l'heure. Et donc, tu vois, de la même façon que l'eau doit se donner au feu, l'eau doit se donner au bois, pardon, c'est-à-dire l'actionnaire doit financer les développements. Les développements doivent servir le projet collectif. Le bois doit donner naissance au feu. Le feu doit donner naissance à la terre, c'est-à-dire le projet du collectif doit permettre de rendre heureux les hommes et les clients. Mais ce bonheur doit être créateur de performance que mesure le métal. Voilà. Et la performance que mesure le métal, eh ben, c'est créateur de richesse, et ça va venir nourrir l'eau. Alors, d'accord, le métal, il se donne à l'eau. En Chine, ça, c'est peut-être plus compliqué à comprendre par analogie. La seule métaphore que j'ai trouvée, c'est dire: si tu mets une plaque de métal dans un brouillard, d'abord, ça cristallise l'eau, donc l'eau va apparaître. Et puis, l'eau, elle va faire rouiller le métal, donc elle va manger le métal, elle va le faire disparaître. Et donc, le métal disparaît pour que l'eau naisse. Mais c'est moins évident. Mais en tout cas, tu vois que tu as un cycle. Alors ça, c'est très important. La deuxième loi qu'on vient de voir, hein, donc après la loi d'existence, c'est la loi de co-engendrement. On voit que tout ce petit monde se co-engendre, mais ça veut dire un truc qui va nous frustrer un peu, nous les Occidentaux, c'est qu'il n'y a pas un chef, quoi. Il y en a cinq, mais il n'y en a pas un qui est plus important, parce que si tu enlèves l'un des cinq, bah, tu brises une chaîne de co-engendrement et ton empire va tomber. Tu ne peux pas vivre sans cœur, sans foie, sans poumon. Et qu'est-ce qui est le plus important? La question est idiote. En fait, ça n'est pas une question sensée. Les poumons sont pas plus importants que les reins, quoi. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment dans cette métaphore du vivant. Alors, ce sur quoi je vais passer assez vite, mais j'en dis quand même un petit mot, c'est qu'en fait, cette deuxième loi de co-engendrement, donc encore une fois, hein, l'eau se donne au bois, qui se donne au feu, qui se donne à la terre, qui se donne au métal, qui se donne à l'eau. En fait, et vraiment en chinois on le dit, hein, on dit: l'eau est mère du bois, qui est père du feu, qui est père de la terre, qui est mère du métal, qui est père de l'eau. On a vraiment cette logique d'engendrement, et on utilise vraiment la logique de filiation quand on en parle. Mais ce que dit très vite la sagesse chinoise, et ça c'est intéressant pour nous parce que c'est un truc qu'on a compris dans notre culture très tardivement avec la systémique et ce qu'on a appelé l'effet feedback, c'est que si l'eau se donne au bois, dans le vivant, il serait assez rare, voire impossible, que le bois n'ait aucune action en retour sur l'eau. Tu vois, dès qu'il y a une logique d'interdépendance, il y a une logique de truc dans les deux sens. Alors ça, c'est quelque chose qu'on comprend très très bien quand on a des enfants. C'est qu'en fait, quand on a des enfants, on a engendré son fils ou sa fille. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est père de son fils ou sa fille. Mais quand on fait parler des parents, très très vite, ils reconnaissent que c'est aussi l'enfant qui t'apprend à être parent, que ça marche dans les deux sens en réalité. C'est-à-dire que bien sûr, c'est toi qui as donné naissance à ton enfant, mais pour autant, ton enfant t'apprend aussi en retour à être parent. C'est pas une fonction que tu conquiers à la naissance, quoi. C'est une interaction. Et donc, il y a, si tu veux, là, on en parlera peut-être pas comme ça parce qu'il faut aller un peu vite, mais il y a quelque chose dans ce lien d'engendrement qui est intéressant parce qu'il y a d'un côté, l'eau se donne au bois, le bois se donne, etc. Mais il y a aussi, le bois donne envie à l'eau de se donner à lui. Tu vois, il y a une espèce de logique de motivation. Oui. En fait, voilà. Donc, si tu veux, la loi d'engendrement, elle se met dans un sens en disant: l'un engendre l'autre, mais elle se met aussi dans l'autre sens en disant: l'autre finalise l'un, lui donne envie de se donner à lui, de voilà. Et donc il y a quelque chose d'intrinsèquement systémique dans cette relation qui est vachement intéressant. Alors tu vois, par exemple, si on l'applique juste à ma question du manager, bah, quand on dit le manager, c'est le feu, et le feu, il doit rendre heureux ses hommes et ses clients. Ça, c'est ce qu'on a dit. Oui, et pour rendre heureux tes hommes et tes clients, il faut par exemple que tu utilises le talent de tes collaborateurs. Mais en tant que manager, tu n'es pas un prescient. C'est-à-dire que quand tu regardes un manager, un collaborateur qui marche dans un couloir, t'es pas frappé par la grâce du manager en disant « je vois ton talent et donc tu vas faire ceci ou cela ». Et donc, il y a un moment donné où, quand on dit que la terre doit finaliser le feu, c'est au collaborateur à dire à son manager « fais-moi confiance sur ce sujet-là et là-dessus, tu verras, je suis sur mon talent et tu ne seras pas déçu ». Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de « moi, comme manager, je dois utiliser le talent de mes collaborateurs, ok, ça c'est pour les rendre heureux, mais… » et créer du bien pour le tout, hein, bien entendu, mais il faut en retour que le collaborateur il s'engage en disant bah écoute, voilà, là-dessus tu peux me faire confiance, quoi. Mais tu vois, c'est un lien d'interdépendance. On n'est pas dans un truc qui est que au manager d'utiliser les talents comme s'il les avait en tête, quoi, tu vois.
Oui, comme s'il avait au moment où il voit le manager la liste de ses compétences et qu'il pouvait cocher des cases en lui disant il faut que ça se rattache au réel et à la réalité, c'est-à-dire c'est ça, le feedback, en fait.
Exactement, exactement.
Et donc ça veut dire faire des erreurs.
Parce que là, c'est du bon. Absolument, et les rectifier en permanence, tout à fait.
Corriger les erreurs.
Et en plus, en sachant que c'est pas parce qu'on a trouvé un truc qui marche que ça va marcher longtemps. Tu vois, il y a cette histoire de l'équilibre permanent qu'on perd en permanence. Tu vois.
Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment la confrontation permanente au réel qui va nous permettre, en faisant des erreurs, de nous ajuster en permanence.
Exactement. Et tu vois, d'ailleurs, dans la métaphore de la Chine, du médecin chinois que tu vas voir quatre fois dans l'année, en fait, tu vas le voir à chaque fois que la saison change. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu as quatre moments dans l'année où tu passes de l'été à l'hiver, de l'hiver au printemps, bref, dans le cycle des saisons. Et en gros, qu'est-ce que dit la médecine chinoise ? Elle dit, si on était en hiver, tu étais dans l'équilibre de l'hiver. Mais manque de peau, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps, c'est qu'en fait, la nature, elle ne va pas rester en hiver, elle va passer au printemps. Donc, si tu gardes ton équilibre de l'hiver, tu vas être malade. Et donc, le rôle du médecin, c'est au moment où on change de saison, aider ses patients à changer d'équilibre. Et du coup, ça explique pourquoi il y a non pas en Chine 4 saisons, mais 5. Parce que la 5e saison, c'est une saison qui est répartie entre les 4 saisons que nous, on connaît bien. Parce que pour que le printemps devienne été, il faut qu'il y ait une saison intermédiaire qui transforme le printemps en été. Cette saison intermédiaire, les Chinois l'ont appelée la saison de la Terre. Tu vois, à nouveau, de la digestion, de je prends un truc et je le transforme en quelque chose d'autre. Eh bien, sachant que la Terre, hein, c'est les hommes dans l'Empire, c'est les paysans, c'est le truc le plus central, hein, et c'est le plus important. Parce que quand on y réfléchit, la Terre dans les 5, c'est... Parce que, tu vois, bon, pour être un peu trivial, hein, mais le cœur, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il pompe du sang, il l'envoie partout, quoi. Okay. Mais la Terre, qu'est-ce qu'elle fait ? La digestion, c'est un truc magique, hein. Tu manges des choses qui sont mortes et tu les transformes en vivant en toi, quoi. Donc la digestion, c'est peut-être la fonction qu'on regarde de façon la plus triviale, alors qu'en fait, elle a une fonction quasiment magique quand on y réfléchit, hein. Et encore une fois, le paysan, c'est la majorité de l'Empire, c'est le plus important s'il fallait... Encore une fois, on peut pas en enlever un des 5. Mais les 5 sont au fond au service du centre. D'ailleurs, tu sais, en Chine, le nom de la Chine, c'est l'Empire du milieu, quoi. C'est vraiment la Terre, c'est là où je regarde, au centre, quoi, voilà. Et donc, là, c'était pour terminer, hein, l'idée du fait que j'engendre, mais que je suis aussi motivé par mon enfant. Et le manager, il doit capter les talents de ses collaborateurs, mais c'est à ses collaborateurs de s'engager. Donc, tu vois, on est dans un lien d'interdépendance réel. Et puis, la dernière loi, mais que je présente en quelques secondes, parce qu'elle est simple et en entreprise, elle marche très, très bien. C'est la loi de co-contrôle. C'est l'idée de dire, bien sûr, il faut qu'on se co-engendre, mais il faut aussi qu'on se régule. Et à nouveau, alors ça, c'est très intéressant, dans la sagesse chinoise, la régulation dans le vivant, c'est pas le rôle de l'un sur les autres. C'est un rôle qui est partagé, c'est-à-dire que chacun contrôle un autre et est contrôlé par un autre. Et en gros, là, on retrouve le culte des ancêtres. En fait, c'est notre grand-père dans le lien d'engendrement qui nous contrôle. Donc, par exemple, mais tu vois, c'est à nouveau un truc qu'on va comprendre très simplement en paysan. L'eau contrôle le feu. Tu vois, l'idée, c'est que si tu balances un seau d'eau sur un feu, c'est l'eau qui gagne, quoi. Voilà. Ouais. Donc, l'eau contrôle le feu. En entreprise, c'est une évidence, hein. L'eau, c'est l'actionnaire. Il contrôle qui ? L'équipe dirigeante. C'est évident, voilà. Ouais. Le feu contrôle le métal, parce que tu te rappelles, le métal, c'est le rapport au réel, mais des fois le feu, le rôle du dirigeant, c'est de dire ça c'est pas conforme au réel, mais moi je prends un risque, voilà. C'est-à-dire que ce projet il coûte encore du pognon, mais j'y crois et on le fait quand même, alors que le juge aurait dit mais il faut arrêter, ça coûte trop cher, quoi. Voilà. Et le rôle du feu, c'est de dire à un moment donné, je prends un risque et j'y vais quand même, quoi. Voilà. Mmh. Le rôle du juridique, c'est de dire au patron, attention, là, on n'est pas dans la loi. Et ben, le patron dit, je sais, mais la loi, elle n'est pas toujours respectable sur ce sujet-là, donc je prends un risque et j'y vais. Voilà. Mmh. Et donc, le feu contrôle le métal. Le métal, il contrôle le bois. Autrement dit, dans l'entreprise, le juridique, il doit quand même donner son accord avant que le marketeur fasse une pub, quoi. Tu vois ?
Oui, et ça, aussi limiter la conquête par moment en disant, mais on va épuiser les ressources.
Surtout que le bois ne s'arrête jamais. C'est exactement l'idée. Voilà. Ouais. Et donc, le rôle, et ça, tu vois, alors là, pour moi, dans mon expérience de manager, ça a beaucoup aidé ce modèle, parce que ça fait comprendre un truc très intéressant, c'est qu'au sein d'un comité de direction, il est tout à fait bien, bon et sain qu'il y ait une opposition entre le juridique et le marketing, par exemple.
Mais oui, la confrontation.
Voilà, exactement. Mais c'est pas une opposition de personne. Or, souvent, nous, dans notre fonctionnement, on pense très vite que s'il y a une tension, c'est un problème de personne. Alors qu'en fait, là, c'est un problème de fonction. Tu vois, c'est logique que les poumons contrôlent le foie, on va le dire comme ça en médecine chinoise. En tout cas, le juriste, oui, il doit donner, voilà. Le financier, il doit donner son accord parce que si ça coûte trois fois plus cher que ce qui avait été annoncé, c'est pas juste. Enfin, tu vois, voilà. Et encore une fois, le bois n'a pas de limite. Le bois s'arrête jamais. Donc, le bois, il a besoin d'être limité.
Et d'ailleurs, on voudrait pas qu'il s'arrête, puisque c'est sa fonction de pas s'arrêter.
Exactement. Exactement. Alors, tu vois, donc là, on a vu les trois premières co-contrôles, puis t'as après le bois qui contrôle la terre. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le général, il y a un moment donné où quand il doit faire la guerre, il réquisitionne les paysans. Et les paysans, ouais. Il leur dit charger, eh ben, il faut qu'ils y aillent, quoi. Et encore une fois, les paysans n'ont absolument pas envie de charger. Les paysans, ils ont envie de cultiver leurs champs. Enfin, tu vois, la terre, c'est plus l'amour et l'inquiétude que la colère, quoi. Le bois, c'est la colère. Voilà. Et donc, c'est le passage en force. Et donc, là, à nouveau, en entreprise, c'est assez intéressant parce que ça permet aux dirigeants de se dire, oula, si je dois faire du neuf, tu te rappelles ce qu'on a appelé le bois en entreprise, c'est le développement, les nouveaux produits, les nouveaux services, aller dans un nouveau pays, accueillir un nouveau collaborateur, conquérir, acheter un concurrent. Enfin, c'est dès que je fais du neuf, je fais du bois. Et ben, la Chine dit, attention, si tu fais du bois, tu vas épuiser ta terre. Et la terre, c'est qui? C'est tes hommes et tes clients. Et donc, en fait, on comprend qu'il y a, et qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, en entreprise? Ça veut dire que, par exemple, si je lance un nouveau produit, c'est assez rare que du premier coup, le produit soit parfaitement bien calibré, quoi. Tu vois? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers vendeurs du produit, aux premiers acheteurs du produit, ils vont quand même, il va y avoir des tensions, quoi. Parce qu'effectivement, l'acheteur, on lui aura promis un truc qui marche peut-être pas encore. Et le vendeur, du coup, il va se faire engueuler par l'acheteur en disant « Mais tu te fous de moi, tu m'as dit un truc et c'est pas du tout ce qui se passe. » Mais c'est normal, c'est un nouveau produit. Donc au début, ça marche pas. Et c'est normal, c'est la métaphore de la guerre. Mmh. Et quand l'entreprise a appris à faire quelque chose de neuf de façon fiable, ben c'est devenu de la terre, justement. Tu vois, la terre a digéré le truc et elle l'a intégré dans ses process. Voilà.
Ah oui, donc, oui, c'est vraiment intéressant. Le parallèle, là, il est assez évident dans la stratégie d'une entreprise.
Tu vois, il redit que dans la vente, au fond, il y a deux sujets très différents. Alors ça, c'est évident, hein, mais on le sait, mais tu vas voir, c'est intéressant. D'un côté, on dit la vente, il y a une dimension de conquête. Ça, c'est la prospection, c'est aller chercher des nouveaux clients. Et là, la Chine dit, mais si tu veux trouver des nouveaux clients, pense la guerre, quoi. Puis après, il y a la fidélisation. Il y a garder des clients. Et là, la Chine dit, oula, si tu veux garder des clients, il faut justement que tu arrêtes la guerre, il faut que tu passes à la terre, à l'amour, au lien, à la création de liens, tu vois. Le bois, c'est la colère. La terre, c'est l'amour et l'inquiétude, quoi. C'est se faire du souci pour l'autre. Et donc, il y a vraiment ces deux tensions. Et la sagesse chinoise dit, ces deux tensions sont antinomiques. C'est-à-dire que si tu fais trop de conquêtes, tu vas épuiser ta terre. Et ça, on voit bien que dans un certain nombre d'univers aujourd'hui, il y a une survalorisation de la conquête par rapport à la fidélisation. Tu vois, moi, j'ai travaillé 15 ans dans la vente à distance. On a sans arrêt regardé les nouveaux clients qu'on accueillait. Donc ça, c'est de la conquête. Mais on s'est pas intéressé beaucoup aux clients qu'on déclassait. Et le problème de la vente à distance, c'est qu'il y a des fichiers dans lesquels on enlevait plus de clients qu'on en faisait rentrer, quoi. Voilà.
Mais tu vois, tu peux avoir l'inverse. Moi, sur une de mes sociétés actuellement, je connais l'inverse.
Ah ben c'est tout à fait possible. Là, tu vois, à nouveau, la question de la Chine, c'est le juste équilibre. Ni trop, ni trop peu, quoi. Si tu fais pas assez de conquêtes, tu vas être complètement out dans le monde qui change. Mmh. Et si tu fais que de la conquête, tu vas épuiser des gens qui travaillent avec toi. Parce que c'est compliqué, la conquête, c'est la guerre, quoi. Donc tu peux pas être en guerre tout le temps, voilà.
Donc, hyper intéressant.
Tu vois, le dernier lien qui est complètement oublié pour moi, c'est les actionnaires commandent l'équipe dirigeante, donc l'eau commande le feu commande le métal commande le bois commande la terre. Mais ce que notre monde oublie très très souvent, c'est que la terre, elle commande l'eau. Alors pourquoi, comment on le comprend dans la nature? Pour les Chinois, l'eau, c'est le fleuve. C'est pas la mer, tu te rappelles l'Empire du Milieu, on tourne le dos à la mer, on la regarde pas. C'est pas les nuages, parce que les nuages et la pluie, ça bouge tout le temps, donc ce qui bouge, c'est du bois. Par contre, l'eau, c'est le fleuve qui s'écoule. Et le fleuve, il s'écoule dans quoi? Dans son lit. Et le lit, c'est quoi? C'est la terre qui porte l'eau. Et donc, il y a vraiment dans l'idée de la terre qui tient l'eau, l'idée que l'honneur de l'eau, c'est d'obéir à la terre. Tu vois, c'est vraiment ça. Mmh. Et ça, en entreprise, c'est vachement intéressant, parce que c'est qui l'eau? C'est l'actionnaire. C'est qui la terre? C'est les hommes et les clients. Et alors là, vraiment, pour moi, ça pose une question majeure pour notre monde et notre temps, c'est de dire, mais quel est le rôle de l'actionnaire aujourd'hui? Est-ce que l'actionnaire, il se considère dans le système au service du système? Ou est-ce qu'il se considère comme un actionnaire vorace en dehors de tout ça? Il garde le lien avec l'équipe dirigeante en lui mettant un flingue sur la tempe et en disant plus 15 à chaque trimestre où tu sautes? Ou bien est-ce qu'il considère qu'il rentre dans le système et qu'il se met au service des hommes et des clients? Et dans mon expérience, assez souvent, si on a des actionnaires adressables, on leur fait des études de marché, donc on lui rend visibles les attentes de ses clients, mais on lui fait pas forcément une étude de l'état social de sa boîte, de ses collaborateurs. Or, pour moi, réciprocité des attentions, le rôle de l'actionnaire, c'est de vérifier que dans le système dans lequel il est propriétaire, les hommes et les clients sont traités correctement. Et donc là, tu vois, on retrouve un peu intuitivement l'idée que l'actionnaire, au fond, il a trois parts dans l'argent qu'il possède. Il y a une part qui doit lui revenir, puisqu'il a pris des risques, donc bien entendu, il faut qu'il soit payé. Mais il y a une part, tu te rappelles, qui doit financer les développements. Ça, on le sait en général très bien quand on est actionnaire, parce qu'on a peur de perdre. Mais par contre, il y a une part qui doit financer la fidélisation. Tu vois, la terre, elle commande à l'eau. Et la fidélisation, ça, alors je suppose que c'est trois tiers, tu vois, il faut réfléchir, mais en tout cas, dans beaucoup d'univers, on peut mépriser l'un de ces équilibres, quoi, voilà. C'est normal que l'actionnaire se paye, c'est normal qu'il paye les développements, c'est normal qu'il donne une partie de l'argent que le système gagne aux hommes et aux clients. Ça, c'est de la fidélisation. Et ça, tu vois, on retrouve cette idée de la transmission. Forcément, l'eau, c'est la transmission. Comme le bois, c'était la conquête, comme le feu, c'est la culmination, la terre, la réalisation, et le métal, le choix et la mesure, quoi. Voilà.
Ok, bah écoute, Olivier, c'est hyper intéressant. Tu vois, j'avais prévu de te poser des questions d'application concrète, mais je pense que tu l'as fait au fur et à mesure, et c'est ça qui est vraiment bien quand on t'entend, c'est que à chaque fois il y a du théorique et il y a de l'application tout de suite, de la réflexion et de l'application possible tout de suite derrière.
Tu vois, pour conclure peut-être sur cet outil-là, ce que je peux juste te dire, c'est les questions qu'on peut se poser quand on est manager, comme c'est un blog à la destination des managers et des dirigeants.
Absolument.
Quand tu regardes la fonction feu, et quand tu te souviens que le feu, c'est l'empereur. Alors la vie de l'empereur, j'en dis juste un petit mot, l'empereur, il a deux saisons, une saison chaude, une saison froide, yin-yang, et dans ces deux saisons de 6 mois, il fait la même chose. Pendant 4 mois, il écoute les sages de son empire qui viennent lui dire « voilà dans la région dont je m'occupe ce qui se passe ». Ensuite, il réfléchit 2 mois dans son jardin, et après, il fait un discours de 3 heures à sa cour pour dire ce qu'il va falloir faire dans les 6 mois qui viennent. Tu vois, ça, c'est le cycle de l'empereur. Mmh. Eh ben, quand tu regardes le fait que le manager, dans la métaphore qu'on a développée ensemble, c'est le feu nous fait nous poser 3 questions, et ensuite la vie de l'empereur nous en fait poser 3 aussi, que des fois on se pose pas. La première chose, c'est que le feu, tu vois, la métaphore du feu, c'est dit, le feu, ça éclaire. Et donc le premier rôle du manager, c'est de donner du sens, c'est de porter le sens, c'est donner un sens au travail, et donc c'est faire une connexion entre l'intime et l'ultime, tu vois, l'intime de chaque collaborateur et l'ultime de la raison pour laquelle on est là ensemble. Ça, c'est l'éclairage du feu. La deuxième fonction du feu, c'est de réchauffer. Et donc ça, c'est pour moi, c'est l'usage des talents, c'est provoquer de la joie, c'est motiver, c'est donner envie, quoi. Voilà. Et le rôle du feu, c'est de donner envie aux clients de venir dans ta boîte, et c'est de donner envie aux collaborateurs d'être dans ton équipe, quoi. Voilà. Tu vois, c'est vraiment le rôle de la motivation. Donc là, on retrouve l'usage des talents. Et puis, bien entendu, le feu, bah, ça éclaire, ça réchauffe, mais aussi ça brûle. Et donc, ça pose la question de la juste distance à son équipe, de la juste distance à ses clients. Tu vois, le manager, c'est pas quelqu'un avec qui je prends mon café tous les jours comme un pote, quoi. C'est pas, sinon, c'est pas mon manager, c'est mon pote ou mon collègue. Donc, il y a vraiment, tu vois, ni trop ni trop peu. Et puis, en plus, dans la vie d'un collaborateur, il y a des moments où il a besoin que je sois plutôt présent, et puis il y a des moments où mon collaborateur, il a besoin que je lui foute la paix, quoi. Et donc, et la seule chose qui change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc, tu vois, il y a cette idée que c'est vraiment l'exercice d'un art de la juste distance, pour être bien présent quand mon collaborateur en a besoin, et puis distant quand mon collaborateur en a besoin. Voilà.
C'est intéressant parce que ça rejoint très fort une chose que je dis souvent sur le podcast, c'est la ritualisation. C'est-à-dire que le manager, il ne doit pas être là en permanence dans son équipe, mais il doit ritualiser son management, c'est-à-dire y être régulièrement. Et il y a une espèce de battement, en fait, qui doit se faire entre le moment où il réfléchit, le moment où il est clair et le moment où il est en écoute par rapport à son collaborateur.
Exactement. Et tu vois, t'as utilisé le mot battement. On est vraiment dans la fonction cœur, quoi. Tu vois, vraiment.
Hein. Ah oui, c'est vrai.
Ouais, tu vois. Et voilà. Et donc, quand tu regardes la vie de l'empereur, donc ça, c'était tu regardes la métaphore du feu, tu te poses ces trois questions. Et quand tu regardes la vie de l'empereur, tu t'en poses trois autres dont t'as commencé à aborder d'ailleurs. La première, c'est quand est-ce que j'écoute? Parce que l'empereur, il passe 4 mois sur 6 à écouter ses sages, quoi.
Ouais.
Ensuite, la deuxième question, c'est, alors ça, c'est celle qui fait le plus mal, je trouve, aujourd'hui, c'est quand est-ce que je réfléchis? L'empereur, il passe 2 mois à réfléchir dans son jardin, quoi. Tu vois? Et d'ailleurs, dans la sagesse chinoise, quand il réfléchit, il y a l'homme interdit, faut pas lui parler, même son médecin le soigne à travers un paravent, faut pas le toucher, faut pas l'emmener, il réfléchit. Tu vois, le DG, c'est le seul ou la seule qui a tout, qui a le maximum de visibilité de son empire, quoi, en tête. Et donc, il faut absolument, et tu as utilisé le mot, hein, mais moi, ça, j'y crois vraiment, il faut ritualiser les moments où on réfléchit. Parce que si on ne les ritualise pas, quand est-ce qu'on réfléchit? Ben, on va prendre ça sur son temps personnel. On va prendre ça sur les moments où on est dans sa famille, sur les moments où on est en vacances, sur ses nuits, sur ses week-ends. Mais ce n'est pas le rôle du week-end et de la nuit de réfléchir à sa boîte, quoi, tu vois. Et donc,
ça, vraiment,
quand est-ce qu'on sacralise du temps pour écouter, pour réfléchir? Et puis la troisième chose la troisième fonction de l'empereur, c'est de faire des discours, hein. Tu te rappelles peut-être le discours d'un roi, là, le film. Si l'empereur est bègue, c'est la catastrophe, quoi. Parce qu'en fait, l'empereur, il doit mettre en mouvement par sa parole. Il doit donner envie aux gens de faire, mais il fait pas l'empereur. Il fait faire. Et donc, la grande question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, quand on est soi-même dirigeant ou manager, est-ce qu'on réfléchit à la façon dont notre parole, elle performe? Évidemment, sur le fond et la forme, hein, bien entendu. Mais voilà. Et donc, tu vois, à travers... Là, c'est juste un exemple, hein, pour conclure, mais tu vois, à travers ces fonctions-là, tu te dis, mais est-ce que j'écoute assez et comment je le fais? Et qui j'écoute? Est-ce que j'écoute pas que mes collaborateurs et pas mes clients, par exemple? Enfin, tu vois, voilà. Ensuite, est-ce que je réfléchis? Et ça, vraiment, pour moi, c'est la question qui tue, hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ritualiser les moments où je réfléchis? Ça veut dire que peut-être dans mon emploi du temps, si je suis manager ou dirigeant, il y a des journées entières que je neutralise et où je dis, je réfléchis, quoi. Voilà. Et pour réfléchir, l'empereur, il va se balader dans la nature et dans les jardins. Tu vois, il n'est pas au milieu de sa cour quand il réfléchit. Il s'isole et il pense, quoi. Voilà. Et ensuite, évidemment, il fait son discours. Voilà. Donc voilà, c'était un peu des exemples, hein, pour terminer, mais il y a plein d'endroits où tu peux appliquer cette dynamique du vivant, et qu'encore une fois, elle te dit, quand tu penses à ton entreprise comme un être vivant, tu te mets à te poser des questions que d'habitude tu te poses pas. Et quand tu te poses des questions que d'habitude tu te poses pas, il est possible que tu trouves une idée intéressante, quoi. Voilà.
Ok. Écoute, c'était hyper intéressant. Je te remercie beaucoup parce que ça avait beau être différent de ce qu'on entend tout le temps, ça n'en est pas moins pragmatique. Et voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour conclure, c'est les questions habituelles que je pose. Est-ce que tu aurais une citation préférée à nous proposer?
Ouais, c'est un proverbe chinois que j'adore qui dit qu'un arbre qui pousse droit finit en planche. Ça veut dire que dans la vie, faut tirer des bords, quoi. Faut essayer, rectifier, changer. Enfin, faut s'adapter. C'est vraiment une question. Enfin, un petit clin d'œil important au monde qu'on vit aujourd'hui. C'est un monde qui est en grand changement. Il faut essayer. Puis, on trouvera peut-être pas du premier coup, mais on finira par trouver.
Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu peux nous conseiller, peut-être en rapport à ce que tu viens de dire? Et évidemment, tu as le droit de proposer un des livres que tu as écrit.
Alors, un livre que je conseillerais en clin d'œil avec ce que j'ai raconté, c'est c'est Moby Dick, dans lequel il y a l'histoire du capitaine Ahab et qui en fait recrute des gens sur son bateau. Et donc, en fait, c'est un manager Ahab. Et pour moi, le livre de Melville, il donne aussi une leçon de management. Parce que Ahab, pour faire venir les gens sur son bateau, il veut les meilleurs, parce que c'est la baleine la plus compliquée qu'il va chasser. Donc, il est obligé d'avoir les meilleurs. Mais s'il dit aux gens qu'il va avoir sur son bateau, qu'il va chasser la baleine blanche, il voit bien que les gens sont pas tout à fait convaincus. Et donc, le gros travail d'Ahab dans le livre, à un moment donné, c'est de recruter son équipage en comprenant intimement les gens qu'il veut mettre dans son bateau pour pouvoir leur donner une raison de faire un lien entre le projet du collectif qui va être de chasser la baleine blanche et la vie intime de chacun de ses collaborateurs. Et du coup, voilà, il se rend compte que le cuisinier qui veut sur son bateau, il a des huissiers dans son restaurant tout le temps, donc il lui dit mais barre-toi 6 mois, tu verras, ils vont t'oublier. Il se rend compte que le harponneur qu'il veut avoir sur son bateau, il s'engueule sans arrêt avec sa femme, il lui dit mais laisse-la 6 mois, tu vas voir, vous serez content de vous retrouver. En fait, il se débrouille pour faire un lien entre l'intime et l'ultime, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure sur le rôle du feu qui éclaire. Donc voilà, d'accord, ça c'est un petit clin d'œil.
Et puis je note parce que j'ai jamais lu Moby Dick.
Je fais évidemment une référence à 2 bouquins que j'ai sortis. Un exactement sur le sujet de notre podcast du jour qui s'appelle L'entreprise en 5 agir. Voilà. Et puis un deuxième qui est sorti plus récemment, mais qui va parler un peu de la mutation et du temps dans lequel on est, de la crise, de la traversée, de la résilience, qui s'appelle La joie d'être au monde. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est mes 2 petits bouquins qui font écho à notre discussion du jour.
Ouais. Ok. Et est-ce que tu as un film à conseiller ou qui t'a plu particulièrement récemment?
Alors j'ai plein de films, plein de séries, plein de voilà, mais j'ai envie de, enfin c'est très banal hein, mais de citer le Seigneur des Anneaux, la quête de Tolkien, parce que on est dans un moment de quête quoi, où il va falloir retrouver un sens des communautés, donc ça c'est la communauté de l'anneau, le sens d'une quête ensemble pour que le monde continue, enfin voilà, donc je trouve que c'est une très belle métaphore de notre monde en ce moment, voilà, après il y a plein de films, plein de séries, plein de choses qu'on a l'occasion de voir et de revoir en ce moment très particulier, confiné. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est très banal, hein, parce que c'est quelque chose que les gens ont souvent vu, mais je trouve que c'est intéressant de le revoir avec cette idée de dire, voilà, on a un monde à réinventer, quoi. Si c'est ça la quête de Frodon, comment il fait et avec qui il avance. Enfin, voilà, c'est rigolo de revoir ça avec l'actualité en background, je trouve.
D'accord. Merci beaucoup. Ton actualité en ce moment ou simplement comment on peut te joindre ou...
Alors, pour me joindre, il faut chercher Olivier Berut, B-E-R-U-T, sur Internet et on tombe sur mes livres, sur mes disques, on tombe sur mon site, assez simplement. Voilà, on peut aussi d'accord, te laisser un message et puis tu nous mettras en lien.
Sans problème. En fait, le podcast, il sera aussi présent sur le forum outils du manager et donc je mettrai aussi toutes les références des 2 livres que tu as écrits, que tu as cités et si tu as envie tu pourras aussi laisser un petit message, je te transmettrai super, aussi le lien à toi.
Avec plaisir.
Je te remercie infiniment du temps c'est que tu nous as consacré, je sais que tu as un gros emploi du temps et je sais que tu as un rendez-vous derrière et je pense que tu es déjà en retard.
Ouais mais ça va aller.
Allez, je te remercie infiniment.
Merci d'avoir passé du temps avec moi puis merci aux auditeurs qui auront passé du temps à nous écouter.
Merci Olivier, salut.
Salut.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'expérimenter de nouvelles choses dans le cadre de votre management ou peut-être simplement d'en discuter avec d'autres managers qui ont la même envie que vous d'améliorer leur pratique du management. Si vous voulez échanger avec nous, si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre dans le podcast, eh bien, je vous invite sur le forum. Le forum outils du manager, c'est un lieu d'échange, c'est une communauté très simple et gratuite qui vous permet, avec d'autres managers, d'échanger, de discuter, de vous entraider autour du thème du management, de l'organisation personnelle et de la communication personnelle. Je vous donne l'adresse, c'est tout simple, vous tapez dans votre navigateur de recherche forum.outilsdumanager.com. Il suffit de vous inscrire pour commencer à échanger. Et le petit plus, c'est qu'actuellement, si vous êtes actif sur le forum, eh bien vous avez accès à une formation au management totalement gratuite. Je vous laisse découvrir ça sur le forum Outils du Manager. À bientôt.
Depuis que j'en parle, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles et de commentaires positifs sur les applis de podcast. C'est génial, ça nous fait remonter dans les rankings, ça fait que de plus en plus de personnes écoutent notre message, et puis en plus, évidemment, ça nous fait hyper plaisir. Donc, continuez, si c'est pas encore fait, laisse un avis positif, donne-nous un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast, ça fait super plaisir, et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup.